Je m'excuse pour la frayeur que je t'ai occasionnée. C'est vrai que j'avais rendez-vous avec Roland et Jean-Jacques avant de venir, enfin avant le culte plutôt, et j'étais là mais je ne t'avais pas prévenu. Ce rendez-vous était là pour un peu faire le bilan de la relation entre votre église et le feu à Besançon. Et je suis reconnaissant parce que c'est une des nombreuses marques qui me montre que votre église prend le travail parmi les étudiants à Besançon au sérieux. Il y avait ce rendez-vous, il y a les réponses que je reçois quand j'envoie des lettres de nouvelles, et puis le fait que quand je discute avec les uns et les autres, je vois que vous savez ce qui se passe parce que vous avez lu et vous priez, et ça m'encourage. Il y a aussi le soutien financier qui arrive régulièrement et qui permet à ma femme et moi de vivre aussi. Et pour tout ça, je suis reconnaissant, et ma femme aussi, même si elle n'est pas là aujourd'hui. Je voulais juste vous donner deux sujets de prière actuels. Vous savez qu'on est au mois de décembre, et cette année, Noël tombe en décembre. Ça arrive comme ça des fois. Et donc, on a notre soirée de Noël déjà ce mercredi. On le fait assez tôt parce que plus tard, les étudiants sont en examen, ils n'ont plus le temps de venir. Alors, le but de notre soirée de Noël n'est pas juste de faire la fête parce que c'est la saison. On invite vraiment les étudiants chrétiens à inviter leurs amis non chrétiens à venir. Et c'est une soirée alors festive où c'est facile d'inviter, et on voudrait avoir un petit mot qui explique pourquoi on se réjouit à Noël. Quelque chose d'assez léger pour que ça reste accessible d'inviter des gens qui n'ont jamais eu de relation avec des chrétiens, mais suffisant pour donner soif et faim de plus. Alors priez s'il vous plaît pour que les gens se laissent inviter, et aussi pour que le message transmis soit juste et équilibré et vraiment bien dosé. Un autre sujet de prière, c'est à la fois un sujet de reconnaissance et d'intercession. Nous avons un groupe qui a beaucoup été, pas renouvelé, mais augmenté à la rentrée. Beaucoup de personnes nouvelles se sont jointes, ou des gens qui sont arrivés à Besançon pour les études, ou alors des étudiants de Besançon qui ont décidé de se joindre à un groupe cette année. Du coup, ce premier trimestre a été beaucoup consacré à les intégrer, à leur faire comprendre quel était notre but au feu, et leur donner confiance aussi en ce qu'on faisait, pour qu'ils se sentent à l'aise d'inviter à des événements comme celui qui va se passer pour Noël mercredi. Alors, priez pour que vraiment ce groupe s'homogénéise, que tout le monde trouve sa place et que tout le monde se sente vraiment à l'aise de s'approprier le feu pour être un outil de témoignage pour leurs amis. Voilà, c'était les principaux sujets de prière du moment. J'ai cru comprendre que la semaine dernière, vous aviez eu un message, un grand message sur la loi de Moïse et sur les 10 commandements et ceux qui suivaient. Et on m'a confié la charge de continuer votre parcours dans l'Exode. Et le texte qui m'a été attribué est moins long. Et j'en suis reconnaissant. Mais avant d'entrer dedans, j'aimerais juste avoir un petit sondage. Est-ce que quelqu'un sait, connaît le 13e amendement à la Constitution des États-Unis? Grande question. Alors, il y a des étudiants en droit ici, des ex-étudiants en droit ici. S'ils ne me répondent pas, ça va. Non, ce n'est pas le port d'armes, mais c'est bien tenté. Pendant que vous réfléchissez, ça me laisse le temps d'ouvrir mon document. Un autre qui veut tenter sa chance? Ok, alors je vous lis, il est en deux sections. Je vous lis la première section. Ni esclavage, ni servitude involontaire, si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment condamné, n'existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction. Je pense que je vous ai donné suffisamment d'indices. Donc le 13e amendement à la Constitution des États-Unis abolissait purement et simplement l'esclavage dans tous les États-Unis. Il y a une deuxième section à cet amendement, je vous la lis. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée. Ça tombe un peu à plat. Hein. C'est intéressant parce que la section 1 de cet article nous semblait amplement suffisante. C'était le principe, c'était clair. L'esclavage, c'est fini. Mais les auteurs ont estimé nécessaire d'ajouter la section 2, qui explique comment, en pratique, le principe de la section 1 va être appliqué. Section 1, vous avez le principe, plus d'esclavage. Section 2, comment on va faire pour que ce principe soit mis en application ? Et c'est important parce qu'on n'en reste pas à des vœux pieux. On ne se contente pas de dire « Ah, l'esclavage, c'est horrible, il faut que ça s'arrête ». C'est bien de le dire, mais ça ne change pas grand-chose. Avec la section 2, on explique comment on va y mettre fin. Ici, la Constitution américaine donnait au Congrès américain la responsabilité de mettre fin à l'esclavage dans tous les États-Unis. Il y avait désormais des responsables pour mettre fin à cette horrible pratique. Et même, on pouvait se retourner contre les députés américains si on estimait qu'il y avait une situation qui s'apparentait à l'esclavage quelque part aux États-Unis. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que, comme je vous le disais, vous avez étudié la semaine dernière l'alliance entre Dieu et Israël que Dieu a promulguée par l'intermédiaire de Moïse. Le cœur de cette alliance, c'est les fameux 10 commandements, le fameux décalogue. Et en fait, ce matin, ce qu'on va lire, étudier ensemble, c'est la section 2 de cette alliance. C'est celle où Dieu explique comment, en pratique, cette alliance va être maintenue dans la suite. Et la phase suivante, que vous verrez la semaine prochaine, si j'ai bien compris, sera le moment où cette alliance a été vraiment signée entre les différentes parties, entre le peuple et Dieu. Alors ce matin, notre texte est dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, à partir du verset 20. Et à la lecture, il est assez clair que Dieu a prévu deux cadres d'application à cette alliance. Et les premiers versets que nous allons lire nous disent comment l'alliance va être maintenue pendant toute la durée du voyage jusqu'au pays promis. Et les versets suivants vont nous dire comment cette alliance va être maintenue une fois que le pays promis sera atteint. Alors on va commencer avec les premiers versets qui nous parlent de la route vers la terre promise. Donc Exode chapitre 23, les versets 20 à 23. Et c'est Dieu qui parle. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Yébousiens, et je les exterminerai. Très certainement, vous avez remarqué qu'il est beaucoup question d'un ange dans ces quelques lignes. On va y revenir après. L'autre chose qui apparaît à la lecture, c'est qu'il semble que Dieu s'apprête à traiter son peuple en mode action-réaction. La menace est à peine voilée au verset 21. C'est écrit « Il ne pardonnera pas vos péchés ». Et une promesse très explicite au verset 22, « Si tu lui obéis, je serai l'ennemi de tes ennemis ». C'est simple. Une action entraîne une réaction. Si vous connaissez un peu l'histoire du peuple hébreu pendant tout son temps au désert, son voyage vers la terre promise, c'est exactement ce qu'on observe. On voit Dieu qui intervient directement en réponse à la manière dont le peuple se conduit. Par exemple, un épisode peut-être assez connu, c'est quand les Amalécites viennent attaquer le peuple en traître dans le désert, on a Moïse qui se tient sur la montagne et qui prie pendant toute la durée de la bataille. Et la bataille est longue, et il prie les bras élevés vers le ciel. Et il y a cette fameuse image où les bras de Moïse fatiguent, et Aaron et Hur sont obligés de s'approcher de lui pour soutenir ses bras, pour que ses bras restent élevés vers Dieu pendant toute la bataille. Et on a là un peuple qui, dans la bataille, décide de rester proche de Dieu dans la prière. Et Dieu bénit directement. La victoire est donnée par Dieu. Autre exemple, dans le sens contraire, il y en a beaucoup. Hein. Peut-être vous souvenez-vous de cet épisode où toute une troupe de personnes, dirigée par un certain Corée, s'approche et dit « Non, le culte tel que Dieu l'a mis en place, ça ne nous convient pas. » C'est pas juste qu'il y ait un prêtre, c'est pas juste qu'il y ait Moïse et Aaron qui soient devant, qui soient sur la scène. Et on veut être tous prêtres. Ils se révoltent contre ce que Dieu a établi. Et là, il y a cette image frappante et effrayante du sol qui ouvre sa bouche pour engloutir tous les rebelles. Action, réaction. La révolte est là et directement, Dieu intervient. Et c'est quelque chose qui se répète tout au long du trajet, du long trajet dans le désert. Revenons à cet ange qui est le personnage central de ces quelques lignes. D'abord, est-ce que c'est bien un ange ? C'est écrit « ange » dans ma Bible, je ne sais pas ce qui est écrit dans la vôtre. Pourquoi ? Parce que le mot qui est traduit par « ange » dans nos Bibles, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, est un mot qui a plusieurs sens. Ils peuvent aussi bien vouloir dire « ange » au sens où nous on l'entend, peut-être avec l'imagerie de cet être lumineux qui descend directement du ciel, avec des ailes et une harpe, tout ça. Mais quand c'est écrit « ange » dans la Bible, ça peut aussi bien vouloir dire tout simplement « messager ». Et il y a des hommes dans la Bible qui vont porter un message à un autre homme, qui sont appelés des anges. Alors, dans ce cas-là, nos Bibles, en général, ne le traduisent pas « ange », mais « messager ». Mais c'est le même mot. C'est un mot ambigu. Alors, est-ce que c'est bien un ange ? Alors, peut-être que le texte en lui-même peut nous donner des indices. Est-ce que c'est juste de traduire « ange » ou est-ce qu'il faudrait comprendre autre chose ? Alors, peut-être que vous vous dites « mince, pourquoi on entre dans cette question ? C'est complètement secondaire, on s'en moque, qui sait finalement ?» Mais vous allez voir, en étudiant tout ça, que ce qui est dit de ce personnage est vraiment riche d'enseignements. D'abord, les versets 20 et 23 nous disent quel est le rôle de ce personnage. Il nous montre que son rôle consiste à mener le peuple dans le pays que Dieu leur a promis. À mener le peuple dans le pays que Dieu leur a promis. En fait, il est le personnage qui accomplit le projet de Dieu. C'est bien pour mener tout ce peuple dans le pays promis que Dieu a mis en route toute cette succession d'événements. Il a fait des promesses à Abraham, il a envoyé Moïse, il a envoyé les 10 plaies, il a déclenché l'Exode, il a ouvert la mer des roseaux, etc. etc. Et tout ça, ce n'est pas juste pour qu'on fasse des beaux films ou des beaux dessins animés 3500 ans plus tard. L'idée, c'était vraiment d'emmener ce peuple dans ce pays qui était promis. Donc, ce personnage est là pour accomplir le projet de Dieu et notamment d'emmener le peuple vers le pays qui lui est préparé par Dieu. Au verset 21, on découvre que ce personnage est vraiment une personne parce qu'il est demandé au peuple de ne pas lui causer d'amertume. C'est pas juste une force impersonnelle, c'est pas la foudre divine, c'est pas le marteau de la justice, quelque chose qui est ni content ni pas content, mais qui agit. Non, c'est vraiment une personne qui peut être blessée par l'attitude du peuple à son égard. Blessée ou réjouie d'ailleurs. Toujours au verset 21, on voit que cette personne a l'autorité de ne pas pardonner les péchés. C'est écrit, hein ? Ne lui cause pas d'amertume parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Ça sous-entend que probablement cette personne aurait le droit, naturellement, de pardonner les péchés. Mais qu'en l'occurrence, là, dans ce trajet du désert, elle ne le fera pas. Toujours au verset 21, c'est écrit « Mon nom est en lui ». Alors, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous savez ce que ça veut dire, ce genre d'expression. Le nom de quelqu'un, quand on parle du nom de quelqu'un, on parle de ce quelqu'un. Si on dit « béni soit le nom de Dieu », c'est la même chose que dire « béni soit Dieu ». Il n'y a pas de différence. Et quand c'est écrit que le nom de Dieu, je relis pour ne pas faire d'erreur, quand c'est écrit « mon nom est en lui », ça veut dire que la personne de Dieu est présente dans ce personnage. La dernière chose que je voudrais noter sur ce personnage, et ce qui n'est pas vraiment contenu dans un verset en particulier, mais qui se dégage de tout notre passage, c'est que Dieu a décidé de traiter tout le peuple qui est là en fonction de l'attitude que le peuple aura envers ce personnage. La phrase était un peu tarabiscotée, alors je vous la redis. Dieu a décidé de traiter le peuple en fonction de l'attitude que le peuple aura envers ce personnage. Verset 21, c'est écrit « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui. » Obéir à ce personnage, c'est obtenir l'approbation de Dieu. Mépriser ce personnage, c'est encourir le risque de ne pas être pardonné. Alors, qui est donc ce personnage, rempli de la personne de Dieu, qui est le chemin qui mène à l'endroit que Dieu a prévu pour son peuple ? Ce personnage qui peut pardonner nos péchés ou ne pas pardonner nos péchés, en l'occurrence. Celui dont Dieu approuve ceux qui lui obéissent et Dieu rejette ceux qui le rejettent. Bien sûr, avec une liste pareille, on a envie de penser tout de suite au Fils de Dieu, à Jésus-Christ lui-même. Et peut-être que c'est le cas, peut-être que déjà Jésus-Christ était présent à guider tout le peuple à ce moment-là. En fait, j'en suis pas vraiment sûr, j'en sais rien. Mais si ce n'est pas Jésus qui est à ce moment-là, c'est clair que ce personnage nous parle de Jésus. Parce qu'il reprend tellement des caractéristiques de Jésus. On peut avoir quelques doutes quand même. Parce que, entre autres, il y a un autre texte dans l'Ancien Testament, qui est dans le livre d'Ésaïe, qui semble faire référence à cet épisode et qui va un peu dans une autre piste. Ésaïe au chapitre 63, les versets 9 et 10, et je vais vous lire. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Pardon, c'est Ésaïe 63, les versets 9 et 10. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il les a lui-même rachetés. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il se changea pour eux en ennemi, c'est lui qui a combattu contre eux. Donc ce texte, avec ce contexte, pourrait faire penser que Ésaïe associe ce personnage à l'Esprit Saint. Et peut-être que c'est le cas, en fait, si on comprend bien. Mais finalement, est-ce que ça change vraiment grand-chose ? Quel est le rôle de l'Esprit Saint ? Jésus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, explique bien que le rôle de l'Esprit Saint, c'est de rendre gloire à Jésus. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage de Jésus et le glorifier. Et peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est là auprès du peuple, mais à nouveau, le Saint-Esprit est là pour annoncer Jésus. Et s'il reprend toutes ces caractéristiques qui nous donnent envie de penser que c'est Jésus, si c'est le Saint-Esprit, c'est bien pour préparer le peuple à recevoir Jésus. Je ne sais pas quelle impression vous avez en lisant les textes de l'Ancienne Alliance ou en pensant à l'Ancienne Alliance. Et des fois, on se représente les choses comme si on avait une religion qui tournait complètement autour des prêtres et des sacrifices, mais surtout des prêtres qui font intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et d'ailleurs, le peuple lui-même était volontaire pour ce genre de relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire la semaine dernière, mais après avoir entendu la voix de Dieu qui leur énonçait les 10 commandements, tout le peuple a entendu la voix de Dieu à ce moment-là. Et ils étaient terrorisés par cette voix. Et ils ont supplié de ne plus jamais avoir entendu cette voix. Ils ont demandé à ce que Moïse soit l'intermédiaire entre Dieu et eux pour qu'il n'y ait pas de contact direct. Dieu leur faisait trop peur. Mais dans ce texte, on voit que déjà, Dieu veut rendre le peuple responsable d'être directement face à Dieu. Alors, même si à terme, un jour, Dieu devait s'incarner lui-même, devenir un humain pour venir à la rencontre de ce peuple qui le craignait tellement, il fallait déjà le préparer longtemps à l'avance pour ça. Et ce texte commence à le faire, ou continue à le faire. Finalement, avec un peu de lucidité, ce peuple, en découvrant cette annonce d'un messager qui l'accompagnait, et qui était si terrible, parce qu'il était si plein de Dieu, le peuple aurait dû supplier Dieu de les épargner en disant « Non, ne nous envoie pas ce messager. » C'est clair qu'on sera incapable d'obéir. Et c'est clair que sa colère va tomber sur nous. Et ça s'est amplement vérifié dans la suite. Je laisse un peu ces questions en suspens pour continuer le texte. Et voir la deuxième partie où Dieu explique comment l'alliance va être maintenue une fois qu'ils sont arrivés dans le pays promis. Et je lis à partir du verset 24. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, et tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras, et tu briseras leur stèle. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras, et je ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Héviens, et les Cananéens, et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé, et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de toi, loin de ta face, jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. J'établirai ta frontière depuis la mer des Joncs jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Cette partie se commence et se termine par une exigence de Dieu. Il veut l'exclusivité de l'adoration du peuple. Il ne tolère aucun rival. Nous allons y revenir après. L'autre chose qui apparaît à la lecture, c'est qu'il semble que Dieu s'apprête à traiter le peuple en mode « Je te bénirai à condition que tu me sois fidèle ». C'est un peu moins action-réaction que dans le désert, c'est un peu moins direct. Dieu semble dire qu'il veille à la situation générale du peuple pour que cette situation générale corresponde à leur attitude générale. En d'autres termes, si des malheurs venaient à arriver sur le peuple, pour eux, ce serait une démonstration que Dieu les a privés d'une bénédiction qui doit les alerter sur leur désobéissance et les pousser à chercher où ils ont été infidèles et à se repentir. Le processus est un peu moins direct, mais du coup un peu plus souple peut-être. Alors les bénédictions que Dieu promet en cas d'obéissance sont de deux ordres. D'abord, il y a des bénédictions pour la vie humaine quotidienne. Au verset 25 et 26, Dieu promet de prendre soin d'eux pour des choses comme la nourriture, la boisson, la santé, la fertilité, la longévité. Et ensuite, il y a plusieurs versets qui sont plus l'aspect politique de la bénédiction. Dieu promet de semer la terreur parmi les ennemis, qui fera que les ennemis fuiront devant le peuple. Dieu promet des interventions surnaturelles dans les batailles, les frelons dont il est question ici. Dieu promet la victoire et l'établissement du pays dans les frontières qu'il a promises. Et tout ça, c'est pas rien pour un peuple qui arrive comme des nomades dans un pays déjà occupé, déjà construit, avec des citadelles, avec des gens armés, des géants même. On voit malgré tout que toutes ces bénédictions contiennent en elles-mêmes une responsabilité placée sur le peuple d'être fidèle pour saisir la bénédiction. Le peuple a un rôle pour conquérir le pays. Dieu, dans sa sagesse, chasse les adversaires, mais pas trop vite, parce qu'il sait que le peuple a besoin de temps pour conquérir tout ce pays. Il ne peut pas le remplir en une année comme ça. Alors, ça va se faire petit à petit. C'est beau parce que Dieu est en train de placer sur les peuples qui vont être chassés la responsabilité de prendre soin de ce pays en attendant que le peuple d'Israël soit capable de le conquérir et de l'occuper. Un rôle de gérant, bien malgré eux. Mais Dieu prépare les choses. Mais le peuple, finalement, devra le conquérir. Si Dieu envoie des frelons pour chasser les ennemis, mais s'il n'y a pas le peuple d'Israël qui vient derrière les frelons pour occuper, à quoi auront servi les frelons ? Les miracles de Dieu sont bons, mais ils sont rendus inutiles si les hommes ne sont pas fidèles pour remplir leur rôle. Dieu fera tout pour qu'ils entrent dans leur héritage, mais seront-ils fidèles pour rentrer en possession de cet héritage ? Et d'ailleurs, si on creuse cette question d'ennemis qui ne sont pas chassés directement, qui sont chassés seulement petit à petit, on découvre que c'est un thème qui est évoqué à d'autres endroits dans la Bible. Et en particulier, au début du livre des Juges, il est donné d'autres raisons qui expliquent pourquoi ces nations sont laissées en repos. C'est à la fin du chapitre 2 et au début du chapitre 3 des Juges. Je vais pas lire, mais juste vous donner les raisons qui sont données par Dieu. Dieu veut que les générations montantes d'Israël aient l'occasion de connaître la guerre. Ça sonne bizarre à nos oreilles. Hein. Mais Dieu ne voudrait pas que les nouvelles générations du peuple d'Israël puissent être en possession de ce pays en ayant l'impression que c'est un acquis, que c'est facile, que ça n'a rien coûté. Chacun doit réaliser qu'il est acteur dans tout cela, génération après génération. L'autre raison qui est donnée dans le livre des Juges, c'est que Dieu veut mettre les Israélites à l'épreuve. Dieu veut les laisser face à des peuples qui ont une religion horrible, qui adorent des dieux horribles. Enfin, ce qui est décrit, c'est juste répugnant, il y a des sacrifices humains, des choses comme ça. Et Dieu veut que le peuple d'Israël voit ça et soit en mesure de choisir de rejeter ses pratiques et de rejeter ses dieux et de choisir le seul vrai Dieu. Mais c'est une mise à l'épreuve. Seront-ils capables ? Parce qu'il y a des choses attirantes dans ce culte. Il y a la prostitution sacrée qui peut être attirante, peut-être pour certains. Il y a des orgies qui peuvent être attirantes pour certains. Et certains s'y sont laissés attirer. Cette question des ennemis qui vont être chassés petit à petit pour que le peuple d'Israël, génération après génération, décide d'éloigner loin d'eux ces gens qui les influenceraient dans le mauvais sens, sont en cohérence avec l'exigence de Dieu qui est donnée au début et à la fin de ce deuxième passage. Dieu veut l'exclusivité de l'adoration du peuple. Au verset 24, il leur commande très sévèrement de ne pas se prosterner devant les dieux, de ne pas les adorer, de ne pas imiter les peuples, d'aller jusqu'à briser les stèles qui représentent leurs dieux, de les abattre. D'abattre quoi ? Les statues des dieux ? D'abattre les peuples qui les adorent ? J'ai l'impression que c'est les peuples, parce qu'ils sont tellement associés à ces dieux qu'il faut abattre. Et quand on lit l'histoire qui s'est passée après dans la conquête du pays, bien peu de ces gens ont échappé à toutes les violences qu'il y a eu lors de ces conquêtes. Il y a quelques exceptions. Il y a Rahab, cette prostituée de Jéricho, qui avec toute sa famille a échappé au massacre. Et pourquoi a-t-elle échappé ? En fait, parce qu'elle a réalisé, elle et toute sa famille, que le Dieu des Juifs, enfin des Hébreux, à cette époque on disait, le Dieu des Hébreux était le seul vrai Dieu et qu'il allait balayer toute autre divinité. Elle a été terrorisée Et cette terreur était un signe de foi de sa part. Et à cause de cette foi, elle a été, en quelque sorte, associée au peuple de Dieu et sauvée. Mais sinon, il ne fallait laisser personne. Au verset 25, Dieu exige d'être adoré. Au verset 31, le peuple doit chasser les autres peuples devant lui. Pourquoi ? Les versets 32 et 33 surtout répondent. Quel risque d'être en contact avec eux ? Quel risque de se laisser influencer, de s'associer à eux, de s'associer à leur Dieu, de s'associer à leur péché ? Alors, je vais essayer de rassembler un peu toutes les idées là. Qu'est-ce que ce texte avait à dire au peuple qui se trouvait au pied du mont Sinaï ? En quelque sorte, Dieu leur disait, vous avez entendu toutes les paroles de cette alliance. Eh bien, pendant votre voyage, ces paroles seront mises en application par mon envoyé, qui ne laissera pas vos désobéissances impunies, mais qui sinon vous conduira dans le pays que j'ai promis de vous donner. Et une fois que vous serez entré dans le pays promis, eh bien, je vous bénirai dans votre vie quotidienne et dans votre vie politique, en fonction de votre fidélité à mon égard, si vous me rendez un culte à moi seul. Voilà comment l'alliance va être appliquée. Alors c'est bien joli, ça se passait il y a 3500 ans. Vous n'êtes sans doute jamais allé au pied du mont Sinaï, sauf peut-être quelques voyageurs ici. Et de toute façon, vous n'êtes pas si vieux que ça. Qu'est-ce que ce texte a à nous dire, nous, aujourd'hui, dans notre contexte ? Alors d'abord, ce texte montre que Dieu a depuis bien longtemps prévu de s'approcher des hommes dans la personne d'un messager. Dieu avait prévu de juger les hommes en fonction de la manière dont ils recevraient ce messager. Nous qui avons le Nouveau Testament, nous savons que Dieu a accompli ce projet dans la personne de Jésus-Christ. Dieu nous reçoit si nous recevons Jésus-Christ tel qu'il est. Si nous le recevons comme le Dieu souverain qu'il faut obéir. Si nous le recevons comme le Dieu juge qui seul peut pardonner nos péchés. Si nous le recevons comme le Dieu berger qui peut et il veut nous conduire vers le lieu qu'il nous a préparé. Mais si nous méprisons Jésus-Christ, nous choisissons de partager le sort du peuple hébreu qui, en chemin sur le pays promis, s'est révolté sans cesse contre ce messager qui était placé auprès de lui. Et nous savons que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, presque, sont morts dans le désert en chemin à cause de ça. Comment considérez-vous Jésus-Christ ? C'est une question qui nécessite une réponse, et une réponse urgente. Ce texte nous parle aussi de l'importance capitale de l'Église locale et de sa pureté. À quel endroit il est question d'Église dans ce texte ? Ça, je le tire du fait que nous devons nous soustraire aux influences mauvaises, aux influences spirituelles mauvaises. Et si on ne peut pas le faire dans une église locale, où est-ce qu'on va le faire ? Alors, on n'est pas, nous, appelés à vivre comme les Israélites dans un pays avec des frontières qui sont aussi des frontières spirituelles. On n'est pas appelés à s'isoler du reste du monde et à vivre qu'entre gens qui partagent la même foi. Non, on est appelés, nous, croyants du Nouveau Testament, à être plongés dans un monde qui est prêt à adorer tout ou n'importe qui, pourvu que ce ne soit pas Jésus-Christ. Et forcément, on risque d'être influencé par ça. Et on l'est, en fait, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être entouré de frères et de sœurs qui partagent la même foi que nous et qui nous encouragent à être fidèles au Dieu de Jésus-Christ seul. Alors, je ne parle pas juste d'être présent tous les dimanches matins à l'église. Je parle d'avoir des vraies relations proches, authentiques et spirituelles avec des gens qui vont nous encourager à rester accrochés, même quand le monde qui nous entoure nous encourage, nous hurle d'aller dans l'autre sens. Et cette nécessité pour chacun de nous d'être impliqué, intriqué dans un tissu de relations avec des chrétiens a une autre face, c'est que l'Église a une responsabilité. L'Église locale a une responsabilité. Elle doit identifier clairement qui est disciple de Jésus-Christ et qui ne l'est pas. Pour une église, prétendre que quelqu'un est chrétien alors qu'il n'est pas chrétien, c'est une manière de dire à tout le monde, suivez-le comme exemple, il n'y a pas de problème, alors qu'en fait, il ne veut pas suivre Jésus-Christ. Alors, je ne suis pas en train de dire que nos églises doivent devenir des sectes où seuls quelques initiés ont le droit d'entrer. Nos églises sont ouvertes à tous et à toutes. Mais il est important qu'il soit clair pour tous qui, dans l'Église, est disciple de Jésus-Christ, et donc membre de l'Église, ou simple visiteur. Simple visiteur parce qu'il n'a pas encore pris de décision de suivre Jésus-Christ. Simple visiteur parce qu'il est peut-être en découverte de la foi, et il est le bienvenu. Simple visiteur peut-être parce qu'il est l'enfant de chrétiens qui viennent, et il accompagne ses parents, et lui-même n'est pas encore au Christ. Il y a sûrement plein d'autres raisons pour lesquelles on vient dans une église sans être membre. Et pour la plupart de ces raisons, je pense qu'on est les bienvenus. Mais c'est important que l'église ne fasse pas comme si tout le monde était sur le même plan. Et que l'église ne place pas tout le monde comme modèle pour les autres. Un dernier enseignement que je tire de ce passage vient du malaise qui ressort en lisant toutes les bénédictions que Dieu promet. Quand se sont-elles réalisées? Est-ce qu'on a déjà vu un seul lieu sur la terre, dans l'histoire, où il n'y avait ni problème d'eau, ni problème de nourriture, ni problème de santé, ni problème de fertilité, ni problème de longévité, et où la paix régnait? Il ne me semble pas. En tout cas, pas depuis qu'Adam et Ève sont sortis du jardin. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses? Alors la réponse courte, non, ça ne veut pas dire ça. La réponse longue tient en deux aspects, enfin, j'y vois deux aspects qui pointent dans la même direction. La première chose, c'est que ses promesses, on a vu, étaient conditionnelles. C'est-à-dire qu'elles étaient liées à la fidélité du peuple. Fidélité au sens propre, c'est-à-dire qu'ils réservaient l'exclusivité de leur adoration à Dieu, sans aucun rival. Qui a jamais adoré Dieu sans aucun rival? Si nous, on examine nos cœurs, on voit, si on est honnête, que bon nombre de nos décisions sont prises motivées par l'amour pour des personnes ou pour des choses qui passent devant la volonté de Dieu. Et dans ces cas-là, on n'aime pas Dieu sans rival, on aime autre chose. Et on est adultère à son égard. Et nous le sommes tous, et le peuple l'a été. Et c'est la raison pour laquelle les bénédictions qui lui étaient promises à ce moment-là ne lui ont jamais été données. Du coup, ce texte nous invite à aspirer, à désirer, à avoir soif d'une vie où nous serons libérés de la tyrannie de ces faux dieux. Et c'est du rivaux au vrai Dieu. Une vie où nous serions capables d'adorer Dieu et Dieu seul. Ces bénédictions sont tellement belles, mais elles sont tellement non réelles dans notre vie qu'elles nous poussent à aspirer à un endroit où toutes les conditions seront levées pour pouvoir les obtenir, parce que nous ne serons plus dans le péché. La deuxième réponse que je trouve va dans le même sens, c'est que la Bible reconnaît que certaines personnes cherchent Dieu et les qualifie de justes. Alors bien sûr, personne n'est juste. Les seuls qui sont justes sont ceux qui sont justifiés en Jésus-Christ, et leur justice ne vient pas d'eux-mêmes, elle leur est donnée. Malgré tout, il y a cette question dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, de la souffrance du juste. Il y a des gens qui cherchent Dieu et qui malgré tout souffrent. Vous pensez forcément à Job quand je dis ces choses, ou alors peut-être aux martyrs du Nouveau Testament. Être rendu juste par Jésus-Christ ne nous garantit ni d'avoir toujours suffisamment à manger, ni d'être en bonne santé, ni de vivre vieux, ni d'avoir des enfants facilement. Et je n'ose même pas parler du fait d'être délivré d'être des ennemis, parce que moi je n'ai jamais vécu dans un pays où sévit la persécution pour le nom de Jésus-Christ. Et bien sûr, la Bible montre que dans un monde envahi par le péché, même les « justes », subissent les conséquences du péché, même s'ils ne sont pas directement responsables de tout le mal qui arrive. Famine, maladie baignent notre monde qui est envahi par le péché, et nous souffrons tous de ces choses. Et par rapport à cette question, notre texte de ce matin nous fait aussi tourner les yeux vers l'espérance d'une vie délivrée de toutes ces choses. Délivrée de la souffrance. Ces deux choses, délivrance du péché, délivrance de la souffrance, sont réservées à ceux qui sont attachés à Jésus-Christ. À son retour, il établira un royaume où vraiment nous serons justes. Et où vraiment nous jouirons de toutes les promesses que Dieu a attaché à cette justice. Il est légitime, et même je crois il nous est demandé, d'aspirer à ce monde futur. Finalement, en lisant notre texte de ce matin, je veux me laisser interpeller. Dieu veut que je m'attache à Jésus-Christ, Dieu venu sur terre. Dieu veut que je m'associe à son peuple, l'Église, pour m'aider à marcher avec Jésus-Christ. Dieu veut que je garde les yeux fixés sur le royaume que Jésus-Christ manifestera lors de son retour. Alors je veux moi aussi marcher sous la conduite de Jésus-Christ avec son peuple vers le pays qu'il nous a préparé. J'aimerais prier avec vous. Père éternel, en lisant tous ces récits du désert, je suis à la fois émerveillé par la grandeur de ce Dieu qui s'abaisse jusqu'aux humains, et horrifié par le cœur humain qui est capable de tant de lâcheté et de trahison. Et j'y reconnais le mien. Je veux me rappeler que tu es le Dieu qui a fait la grâce de se révéler, le Dieu qui a fait la grâce d'entrer en relation avec les humains, et le Dieu qui a fait la grâce de tout préparer pour prendre en charge complètement cette relation. Seigneur, merci parce que tu as tout fait pour que ça puisse se passer. Ce n'est pas juste rester des mots écrits sur, je ne sais pas, des parchemins ou des tablettes de pierre. C'est des choses qui se sont incarnées dans la personne de Jésus, qui a accompli toutes ces choses. C'est des choses qui ont été répandues dans nos cœurs par le Saint-Esprit et que nous pouvons vivre. Et c'est des choses que nous pourrons pleinement consommer quand tu reviendras. Seigneur, donne-nous de garder les bonnes priorités. Donne-nous de nous munir de toutes les armes que tu nous as données. Ta parole, les frères et sœurs, l'espérance que tu places dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Et de vivre une vie active pour toi. De nous saisir de tes bénédictions. Et d'attendre avec patience que tu donnes celles qui sont encore en réserve. Amen.